organisé à la mémoire de Laetitia. Toujours aucune trace de la jeune fille 5 jours après sa disparition près de Pornic.
Ce soir, à 21h, France Inter vous invite à partir avec Sandrine Mercier.
Le voyage est-il nécessaire à la connaissance? Je ne sais pas. Mais il a sauvé la vie de Philippe Sauve. Drogué, il part en Amérique pour s'en sortir et il nous raconte son road trip amérindien ce soir à partir de 21h. Et ça se finit bien.
France Inter. La différence.
15h04, là-bas, si j'y suis, c'est Daniel Mermet.
Bonjour, j'ai écouté l'émission de hier, du jeudi 20 janvier. C'était pour vous féliciter de la qualité de votre émission. Et puis surtout, du répondeur qui, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu comme un Wikileaks qui fait office de Wikileaks. Et puis c'était pour vous remercier pour l'ensemble de vos émissions. Et évidemment, surtout pas remercier Eric Raoult, qui lui, égale à lui-même, quoi. Merci encore, au revoir.
Alors bravo Daniel pour ton émission sur Lumumba. Mais après la Belgique, la France, il faudra aussi raconter le massacre des Bamileke au Cameroun dans les années 60-70, ordonné par le grand homme de la France, le général de Gaulle. L'ONU et les alliés resteront muets. Pourtant, les va-et-vient des bombardiers n'ont pas été discrets. Et tout cela avec la bénédiction du Vatican. J'ai oublié de te préciser, les Bamileke voulaient seulement leur indépendance. Voilà, c'est Carole en Bourgogne. Au revoir.
Impossible d'oublier l'annonce de la mort de Patrice Lumumba, pour qui avait 20 ans à l'époque, et vivait au rythme d'une guerre sans nom qui avait lieu en Algérie. Il y a ce très beau poème d'Henri Lopez, du côté du Katanga, on dit qu'un géant est tombé, repris par le cinéaste haïtien Raoul Peck dans un documentaire intitulé Lumumba, la mort du prophète, beau et bouleversant hommage qu'il faut voir et revoir. Et puisqu'il est question en ce moment de mémoire africaine, ayons aussi une pensée pour quelqu'un encore bien plus oublié, je crois, Thomas Sankara, président du Burkina Faso, assassiné en octobre 1987 et dont les circonstances de sa mort restent encore aujourd'hui bien troubles, en particulier concernant le rôle de la France.
J'appelle pour répondre à l'auditeur qui s'étonnait dans l'émission sur Patrice Lumumba qu'un Congolais ait dit que lui, il aurait mangé Patrice Lumumba. Et il disait manger, c'est remettre ça comme signifier que les Congolais sont des sauvages, des anthropophages. Or, petite précision, c'est pas tout à fait ça que ça veut dire. Manger quelqu'un, c'est le tuer, tout simplement. Et je fais référence à la chanson de Zao, artiste congolais, dans sa chanson « Corbillard ». C'est un mort qui parle au corbillard qu'il transporte, et à un moment, il ne veut pas que le corbillard l'amène au cimetière, et à un moment, le corbillard lui dit « Mais dis-moi un peu, qui t'a mangé ?» Et le mort répond « C'est mon oncle qui m'a mangé. » Voilà.
Bonjour Gilbert, Namur. Je téléphone à M. Daniel pour lui dire que en Belgique, on écoute fort ses émissions. Il n'a pas à s'inquiéter. 1. 2, je voudrais rappeler qu'en ce qui concerne la politique belge, la question est politique, c'est-à-dire que la droite flamande veut remettre en question les acquis sociaux et économiques du mouvement ouvrier wallon et même en partie flamand. Donc c'est une question, je le répète, politique, mais elle est une question nationale. En troisième lieu, je remercie M. Daniel pour ses émissions sur Lumumba. Il est évident que la collaboration entre les milieux américains et belges était bien connue. Merci pour vos émissions. Je les recommande à tout le monde. Au revoir et bonne chance au peuple de gauche de France.
Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Salvador Allende, la République espagnole et bien d'autres expériences qui mériteraient du temps et des avis contradictoires ont durant ce 20e siècle tenté un chemin débarrassé de la conception bureaucratique, étatique et autocratique du grand frère soviétique. Ces tentatives originales, risquant d'étendre la conception émancipatrice et démocratique à toute la planète, ont subi le châtiment du monde libre. Mais avec la Corée du Nord, l'oligarchie tient là son vrai modèle repoussant. Le régime peut dormir tranquille. Régis de Nîmes.
Bon, Daniel, pour durer, il faut se ménager. Alors ne cours plus dans l'escalier. Voilà, au revoir.
Bonjour mes frères, mes sœurs, les auditeurs précaires, les profs précaires bien sûr. 16 000 postes supprimés, mais les concours sont maintenus. Ça devient par contre le parcours du combattant, du moins pour le CAPES interne de l'être moderne. Il faut être sacrément motivé, ne serait-ce que pour se présenter à l'épreuve, vous voyez plutôt. Les traditionnelles procédures d'inscription ont été avancées de 3 mois. Ceux qui attendaient l'automne pour s'inscrire ont manqué le coche pour cette année. Ensuite, à 3 semaines de l'épreuve, c'est-à-dire début janvier, les candidats ont reçu leur convocation. Durée de l'épreuve réduite de 5h à 6h. Bref, comme le dit mon pote, eh bien, faut y aller avec le couteau entre les dents. Allez, salut à tous et bon courage à mes collègues précaires.
Et salut à tous et bonjour aux collègues. Eh bien, contrairement à ce que à ce que demandait cet auditeur, j'ai encore couru dans l'escalier pour arriver jusqu'à ce micro et vous apercevoir derrière vos transistors, chers AMG. Aujourd'hui, on continue non plus sur les traces de Patrice Lumumba, mais sur les traces du roi Léopold II, qu'on va retrouver à Bruxelles, puisque ce Congo, dont il fut le maître incontesté et surtout le propriétaire, il n'y a jamais mis les pieds. Par contre, à Bruxelles, il y a mis plus que les pieds, il y a mis son empreinte et son génie. On va voir comment cette ville est complètement, ou en grande partie, le produit de l'imagination de ce roi qui toujours aujourd'hui est pour les uns un grand roi bâtisseur qui a fait cette ville et pas seulement, qui a fait la Belgique, qui a fait Ostende, qui a fait des tas d'endroits de cette ville, qui a marqué de son imagination tout ce pays. Et puis pour d'autres, nombreux depuis longtemps, il s'agit tout simplement d'un tyran qui, en exploitant les peuples de ce territoire congolais, s'est certainement enrichi, mais a laissé derrière lui une trace, une traînée de sang. Et on va pouvoir la vraiment illustrer, le vieil adage que je répète souvent, il y a toujours du sang de pauvres dans l'argent des riches. D'une façon étonnante, c'est une histoire quand même ancienne que celle que nous allons évoquer, 1880, 1908. On pourrait penser que cette histoire est assez importante et assez ancienne, et le travail des historiens assez accompli pour qu'on puisse se mettre à peu près tous d'accord sur ce qui s'est passé. Eh bien non, la contestation continue entre adeptes de Léopold, nostalgique de la colonisation, et puis les adversaires et les critiques qui sont toujours, c'est un enjeu et un débat très fort toujours chez nos voisins belges. Alors évidemment, c'est pas sans écho avec notre histoire à nous, français, le Congo, Brazzaville est juste à côté. Et puis ensuite, eh bien, il y a cette énorme France-Afrique où nous sommes encore en partie présents, même si nous sommes cachés souvent derrière le rideau. En tous les cas, c'est notre sujet du jour. Tant que les moutons n'auront pas d'historien, l'histoire sera racontée par des loups.
Salut à tous, un petit message pour vous informer que le syndicat Sud Travail, qui syndique les contrôleurs et inspecteurs du travail, est traîné devant le tribunal correctionnel pour injure publique envers une administration publique. Alors l'administration publique étant l'Institut National du Travail, un institut de formation des inspecteurs du travail. Le directeur de l'Institut, sur ordre du ministère du Travail, a déposé plainte suite à la diffusion d'un tract pamphlétaire et satirique de notre syndicat, dénonçant les rétrogradations des élèves inspecteurs du travail et la vision patronale de la formation dispensée par cet institut. Alors une superbe et une bonne image du ministère du Travail, bien sûr, qui se veut le garant des libertés syndicales et du droit d'expression dans les entreprises. Le procès aura lieu à Lyon le mardi 1er février à 14h et nous appelons à un rassemblement dès 12h devant le tribunal rue Servian à Lyon pour soutenir le secrétaire national de Sud Travail et plus globalement pour la défense de la liberté d'expression syndicale. Merci et à bientôt à tous.
Oui, bonjour Daniel et toute l'équipe de la base J'y suis. Toute ma gratitude et félicitations à ce professeur qui a le courage de rendre ses palmes académiques, ne voulant pas cautionner la réforme consistant à accorder une prime d'intéressement aux recteurs les plus zélés en matière de tracogisement d'emploi, comme ils disent. Et l'enseignement catholique qui applaudit dès demain cette directive, c'est une honte. Personnellement, je ne suis plus concernée, puisque retraitée de l'enseignement, mais ça ne m'empêche pas de m'indigner et de penser à mon fils, jeune professeur, à tous mes anciens collègues et les jeunes à venir.
Salut Daniel, Philippe de Montpellier. Eh bien, écoute, comme beaucoup d'auditeurs de France Inter, j'ai appris que Patrice Gélinet allait se faire une retraite au CSA. C'était la deuxième émission que j'écoutais le plus avec la tienne sur Inter. J'espère que tu nous annonceras pas d'ici peu que tu vas te barrer au gouvernement ou dans un truc comme ça. Hein. Fais pas le con, reste. Allez, à ciao à tous, bye.
Léopoldville, la capitale. Sa situation idéale devait en faire très rapidement le plus grand centre commercial et industriel du Congo. En moins de 17 ans, sa population noire est passée de 50 000 à 300 000 âmes. Dans ce nouveau Congo qui en moins de 60 ans a dans le domaine technique franchi les 3000 ans qui le séparaient de nous, quelle est la place du Congolais? Comment s'est-il adapté à ce rythme étourdissant qui est devenu celui de notre civilisation mécanisée? Nous le voyons ici, chef de musique, aux manches à balai d'un bulldozer, pilote de grue, à la barre d'un bateau, policier réglant la circulation. Fondé de pouvoir dans une banque, il s'est adapté au rythme nouveau que notre forme de civilisation lui a imprimé. Peut-être est-ce parce que cette évolution extrêmement rapide s'est vue encadrée et guidée par une saine politique sociale, s'attachant non seulement à soigner les corps dans les hôpitaux, les maternités ou les orphelinats, mais cherchant aussi à donner par un enseignement touchant la masse plutôt qu'une élite, les éléments à même de relever immédiatement la condition du Congolais. Certes, ici comme ailleurs, beaucoup reste à faire. L'essentiel n'est pas seulement d'apporter aux Congolais une amélioration matérielle, mais aussi de rester attentif à ses aspirations, de nous rapprocher de lui et de le rapprocher de nous, sans pour cela, ni l'un ni l'autre, abdiquer notre personnalité.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Guy Vanctil et Léopold II, ce magnifique gâteau africain.
Voilà, en arrivant du Congo, nous voici avec une vue imprenable sur la croupe du cheval de Léopold II, roi des Belges. Et nous sommes ici à Bruxelles, parce que c'est ici, au pied de cette statue, qu'on peut faire recommencer toute l'histoire du Congo belge, avec vous, Lucas Catherine, qui êtes l'auteur de cette promenade au Congo dans Bruxelles. Et ça commence ici, parce que c'est avec cet individu qui est sur cette formidable statue équestre en bronze, avec les yeux qui fixent l'horizon, cette grande barbe un peu à la Rodin de Léopold II, c'est avec lui que l'histoire du Congo belge commence. C'est ça, Lucas Catherine ?
Oui, c'est ça. Sauf qu'il ne regarde pas l'horizon. Il est derrière son palais, ici.
Il tourne le dos au palais royal.
Il tourne le dos au palais royal et c'est une blague des Bruxellois qui a un certain fond parce qu'ils disent qu'est-ce qu'ils regardent ? Pas l'horizon, mais ils regardent une banque juste en face. Et la banque, ça s'appelle maintenant ING. Mais avant, c'était la banque Lambert. Lambert, c'était le beau-fils et le représentant des Rothschild en Belgique. Et comme Léopold II n'avait pas de sous pour commencer sa colonisation, il devait avoir un financier pour avoir de l'argent pour commencer son aventure congolaise. Et donc, c'est en fait le baron Lambert, dans le temps, qui a payé la facture de Stanley, par exemple, pour vous dire quelque chose. C'est une chose qu'on peut dire de cette statue. Deuxième chose est que c'est une statue icône pour la colonisation, parce que quand il y a eu les premières évoluées au Congo, et les évoluées, c'était les Congolais à qui on donnait un certificat qui leur facilitait certains boulots, parce que tous les boulots étaient prévus pour les Blancs, mais certains Congolais pouvaient faire des jobs mineurs comme ça, donc il fallait être évolué. Eh bien, les évolués, ils passaient ici aussi. Et qu'est-ce qui est arrivé en 1955? Il y avait un évolué que personne ne connaissait à ce moment-là.
Un postier, non?
Un postier, oui, qui a été mis en prison même juste avant l'indépendance, un certain Patrice Lumumba. Et donc il est passé ici, et comme tous les évolués, il a déposé une gerbe devant la statue. Parce qu'à ce moment-là, il n'était pas encore politisé d'un côté, et de l'autre côté, les Belges ne le connaissaient pas encore, parce qu'il est surtout connu avec l'indépendance comme le porte-parole du nationalisme congolais.
Bruxelles, Bruxelles coloniale, une promenade au Congo, mais à Bruxelles. Si vous allez passer un week-end à Bruxelles, excellente idée, il vous viendra peut-être l'idée, tiens, d'acheter le guide du routard pour voir les bons hôtels, les bons restaurants, les balades à faire. Voilà, intéressant. Oh, et puis dans le train, vous ouvrirez la page Histoire, Histoire de Bruxelles. Oh tiens, voyons un peu l'histoire de Bruxelles. Et vous apprendrez que cette ville étonnante de Bruxelles doit beaucoup à ce grand roi que fut Léopold II, ses grandes avenues, ses palais, cette place du trône, tout un tas de merveilles, le musée de Tervuren, et puis si vous avez la fantaisie de prendre un train jusqu'à Ostende, alors là, vous aurez encore plus d'émerveillement et de gratification à éprouver envers Léopold II. Si vous regardez une émission comme Des Racines et des Ailes qui nous présente Bruxelles, eh bien là aussi, on se pâme d'admiration devant ce grand roi. Dans aucun des deux cas que je viens de citer, et dans beaucoup d'autres, on évoque ce que fut la conquête du Congo et l'exploitation de ceux qu'il fallait bien appeler les Congolais, puisqu'on avait décidé, et c'est le roi qui l'avait décidé, que ce territoire qui lui appartenait en propre personnellement s'appellerait le Congo. Pour certains chercheurs, et depuis longtemps, pour certains témoins et certains témoignages, et depuis longtemps, il s'est passé là des choses absolument atroces, épouvantables. On pense que la population a baissé de moitié, pour certains observateurs, dans la durée de cette colonisation du Congo par Léopold II. Les histoires de mains coupées, vous avez peut-être entendu parler de ça. Des gens, des travailleurs, entre guillemets, des travailleurs forcés, auxquels on coupait les mains parce qu'ils n'étaient pas suffisamment dociles, qui se montraient un peu récalcitrants, des populations déplacées, des épidémies de toutes sortes, bref, un véritable calvaire, une horreur, au point qu'on a pu employer le mot d'Holocauste oublié pour cette période. C'est évidemment abusif et ça ne correspond pas à ce qui s'est passé. Ce n'est pas un holocauste. Mais on peut peut-être parler d'ethnocide, on peut parler de destruction. En tous les cas, c'est dans cette période-là qu'on a inventé le terme « crime contre l'humanité ». Ce sont des observateurs anglais qui ont trouvé ce terme, que ce terme collait très bien. C'est ce qu'on va évoquer dans cette heure, mais on restera quand même surpris de si peu d'intérêt et une sorte de négationnisme, une sorte de révisionnisme au moins qui règne sur ce passé. C'est un petit peu comme si on évoquait l'histoire de la guerre d'Algérie en mettant de côté la torture, par exemple, impossible aujourd'hui en France décemment. Eh bien, c'est indécence, elle se pratique couramment en Belgique, au moins à travers les exemples que je viens de citer. Alors, on va se balader à travers ce Bruxelles colonial avec Lucas Catherine, et puis on ira aussi à Namur, dans un petit musée qui s'appelle le Cercle Royal Namurois, des anciens d'Afrique. C'est tout dire, c'est jusqu'à 16h et c'est là-bas si j'y suis.
L'exposition coloniale, quand tout sera démoli, laissera dans la capitale un bobard vraiment joli. Si vous trouvez dans la rue un raseur, un créancier, pour abréger l'entrevue, il n'y aura qu'à lui chanter. Qu'est-ce que t'attends pour aller aux colonies, en Afrique, en Asie, chez le Raja ou le Sultan? Le lion, ça ne peut pas te faire peur, c'est plus doux que le percepteur. L'éléphant, c'est un peu gros, mais ça sert moins que le métro. La girafe, c'est mal fichu, mais on sèche son linge dessus. Et le serpent, c'est moins méchant que ta femme qui gueule tout le temps. Qu'est-ce que t'attends pour aller aux colonies? Là-bas, c'est la belle vie, mais reste-y longtemps.
Léopold II, un roi qui va marquer l'histoire du pays.
France 3.
Un fort caractère, reconnaissable à son imposante barbe blanche.
9 novembre 2005.
Il monte sur le trône en 1865 et donne à son petit royaume la taille d'un empire. Pour cela, il se tourne vers l'Afrique et s'empare du Congo. 2 millions de kilomètres carrés qui deviennent sa propriété personnelle. Ce roi ambitieux exploite largement cette colonie au cours de son règne. L'or, les diamants, le coton partent par bateau entier vers l'Europe et finance sa politique de grands travaux. À Bruxelles notamment. Des palais, des églises, des théâtres, de grandes avenues. Tous les quartiers de la capitale conservent aujourd'hui encore des traces de ce roi bâtisseur.
Comme c'est marqué derrière, aere privato erectum, ça veut dire... Ça
a été c'est une souscription qui a
une
payé.
Une souscription, oui. Donc les Belges qui admiraient Léopold II, et à ce moment-là, c'était son successeur Albert Ier, qui faisait la culte de son prédécesseur, celui qui nous a donné le Congo. Donc tout le monde pouvait mettre de l'argent là-dedans pour payer cette statue. Donc cette statue a été payée par les Belges, sauf il y a une petite pancarte en bas qui dit, en cuivre...
Ah oui, minuscule.
Oui, très minuscule, c'est pour ça que les gens ne le voient pas. Et c'est marqué que le cuivre et l'étain pour faire le bronze de la statue viennent du Congo belge et que ça a été gracieusement fourni par l'Union minière du Haut-Katanga, une des grandes compagnies qui a fait beaucoup de l'argent au Congo, qui dépendait de la Société Générale de Belgique. Et puis, il ne faut pas en oublier non plus, quand c'est marqué que ça a été gracieusement fourni par l'Union minière du Haut-Katanga, l'Union minière du Haut-Katanga a aussi, je m'excuse l'expression, gracieusement fourni l'acide dans lequel on a fait disparaître le corps de Lumumba quand il a été tué par les Congolais, mais c'est un commissaire belge, Gérard Soet, qui a donc mis le corps de Lumumba et de ses deux compagnons dans de l'acide, et donc tout a disparu, sauf, il paraît, deux dents de Lumumba qui étaient en or, qu'il a gardé comme souvenir.
Alors voilà, la balade commence dans Bruxelles avec Lucas Catherine, qui est l'auteur d'un petit bouquin que je vous recommande très chaudement, qui s'appelle « Promenade au Congo, petit guide anticolonial de Belgique, que vous soyez belge ou non, ça va vous passionner et jamais plus vous ne verrez ce pays ni cette ville de Bruxelles de la même façon. En cette deuxième moitié du 19e siècle, le capitalisme, pris dans sa révolution industrielle, doit s'étendre. Il doit trouver de nouveaux marchés. Il doit trouver surtout des matières premières. Alors on se lance dans la colonisation, et notamment la colonisation de l'Afrique noire, et toutes les grandes puissances européennes, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, le Portugal, etc., se lancent à la conquête de l'Afrique. Il faut ces matières premières, il faut cette, y a une fièvre colonisatrice à ce moment-là. Il faut rappeler que l'esclavage a été aboli au cours du 19e siècle. Alors, c'est la compétition et le roi de ce tout petit pays qu'est la Belgique, ce roi donc qui s'appelle Léopold II, lui aussi, il veut sa colonie. Alors il hésite entre plusieurs endroits. Il est fort riche lui-même et finalement, il jettera son dévolu sur ce gros ventre mou au centre de l'Afrique qui s'appellera le Congo et qu'un certain Stanley, ça vous dit quelque chose, bien sûr, Stanley, l'explorateur Stanley vient de découvrir. Et donc, on va se lancer dans cette conquête du Congo. De quelle façon ? Eh bien, par la violence, par la duperie, en s'appropriant de cette façon, eh bien, ces territoires, en négociant par la force et par la duperie avec les chefs coutumiers, avec les représentants des peuples et des tribus, jusqu'à s'approprier, encore une fois, cet ensemble-là. Dans un premier temps, le roi va faire exploiter, il n'ira jamais, il n'y mettra jamais les pieds, va faire exploiter l'ivoire, et puis, comme ça ne marchera pas si bien que ça, dans un deuxième temps, au moment de la nécessité de trouver partout du caoutchouc pour l'industrie automobile naissante, il se lancera dans l'exploitation du caoutchouc, des lianes de caoutchouteuses, et là ça va être vraiment une succession de massacres, d'horreurs, de mains coupées, de déplacements de populations, de tortures, de fouets, etc. Si vous vous souvenez du Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, eh bien c'était la suite d'un voyage dans ce Congo que Conrad écrira ce livre. Et donc voilà ce qui se passe et voilà ce qu'on veut dissimuler, ce qu'il a voulu d'ailleurs lui-même cacher à la fin de sa vie. Le roi Léopold a pendant plusieurs jours fait brûler ses archives. Ils auront mon Congo, mais ils ne sauront pas ce que j'y ai fait, dit-il. Mais il y avait beaucoup d'observateurs, beaucoup de rapports qui avaient été faits, beaucoup de critiques, beaucoup d'ouvrages dont nous allons reparler pour essayer de secouer cet étonnant silence qui règne encore sur une partie de la Belgique et de l'opinion belge et sur une partie de ce que nous savons de ce Congo. Suite donc de la balade avec Lucas Catherine à Bruxelles.
Mais alors Lucas Catherine, revenons un peu à ce qui nous amène au pied de cette statue de Léopold II. Comment ça commence l'histoire coloniale belge?
La motivation de Léopold II, sa motivation personnelle. Hein. Après, on a pourquoi certains financiers belges ont contribué à ces idées. Mais pour lui, il faut voir, pendant sa jeunesse, il a été en Angleterre et il a vu Londres qui s'est agrandie et embellie avec l'argent des colonies. Il y avait donc aussi la France qui avait ses colonies et c'est là qu'il a pris une sorte de folie de grandeur. Il voulait que Bruxelles soit plus une ville de province, ce que c'était, mais il voulait un petit Berlin, un petit Londres, un petit Paris. Et donc pour faire ça, il avait besoin d'argent. Et comment on faisait de l'argent ? En colonisant à ce moment-là. Donc il a commencé à regarder où est-ce que je peux faire une colonie. Il a regardé partout, hein. En Chine, il a eu 3 projets, au Maroc même. Donc il a cherché partout.
Il a même cherché un moment à racheter les Philippines à l'Espagne.
Oh, il a voulu acheter aussi l'île de Lesbos au sultan de Turquie. Il a essayé toutes sortes de trucs.
Il voulait investir, quoi.
Oui, donc il a essayé de tout. Et il n'y avait qu'une partie de l'Afrique qui n'était pas encore dans le main des autres puissances coloniales, et c'était l'Afrique centrale, et c'est pour ça que, en fait, c'était parce qu'il n'y avait rien d'autre qu'il a commencé, donc il n'avait pas une vision stratégique, on ne savait même pas encore qu'il y avait tellement de minéraux, parce qu'à ce moment-là, c'était surtout le bois tropical et l'ivoire, donc il a commencé ça, en fait, parce qu'il voulait de l'argent pour faire de Bruxelles une très grande ville, et aussi pour développer d'autres endroits en Belgique, surtout Ostende, qui pour lui était Bruxelles-sur-Mer. Voilà. Et là, il avait l'inspiration aussi de l'Angleterre, où il y a toutes ces villes balnéaires où la monarchie anglaise allait se reposer pendant la saison, comme on dit.
Et donc c'est là le point de départ de la balade qu'on va faire ensemble dans Bruxelles, c'est-à-dire dans tout ce que Léopold a amené, a construit dans le paysage bruxellois avec l'argent, avec les ressources prélevées là-bas au Congo.
Oui. Ben, on ne va pas faire tout parce que c'est presque impossible. Pour vous dire une chose, par exemple, tous les grands parcs de Bruxelles, le parc de Forêt de Saint-Gilles, le parc de Schaerbeek, le parc Elisabeth à Kuckelberg, ont été faits avec l'argent congolais. Parce qu'il ne faut pas oublier, ça c'était quelque chose de très spécial à ce moment-là, que c'était la propriété privée d'une personne.
Léopold a mandaté Stanley, le grand explorateur Stanley, pour aller signer des contrats avec toutes les chefferies locales. Plus de 400 contrats qui auraient été signés, d'accords, de coopération, qui étaient en fait tout simplement une soumission à de l'autorité personnelle du roi des Belges.
Parfois, il y avait des contrats qui... Par exemple, moi, je connais surtout le côté est-congolais, où on parle swahili, où il y a un certain moment, les Arabes de Zanzibar... Avant, Léopold II contrôlait le territoire, donc il y a certains de ce contrat qui sont bilingues, arabe-français. Et quand on voit les deux textes, le texte arabe dit complètement autre chose, ça parle d'autre chose même. Parce que le texte arabe, il dit, j'ai vu un monsieur un tel, il était sympathique, parce qu'il m'a donné du bétail. Et de l'autre côté, c'est marqué que c'est, on est d'accord qu'on reconnaît la souveraineté donc de l'État indépendant du Congo. Un texte qui n'était pas la même chose dans les deux langues.
Léopold II, un roi qui aime les symboles.
France 3.
Et qui a aussi de grandes ambitions pour sa capitale.
9 novembre 2005.
Gérald nous emmène maintenant découvrir un incontournable du règne de ce monarque. Un emblème de sa grandeur. Voici l'Arche du Cinquantenaire, édifiée en 1880 pour fêter les 50 ans de l'indépendance du pays. Un monument néoclassique, une œuvre de l'architecte français Giraud, le même qui dessina le Petit Palais à Paris.
Moi j'aime beaucoup. C'est une architecture grandiose, c'est tout à fait dans l'optique de ce que voulait Léopold II, faire de la Belgique un grand pays, montrer tout le potentiel qu'il y avait en Belgique, même si le territoire n'est pas étendu, le potentiel économique, industriel en Belgique était important, et il fallait que lorsque les étrangers arrivent à Bruxelles, ils soient étonnés et qu'ils trouvent une ville qui soit à l'égal des autres grandes villes, comme Paris, comme Berlin, comme Londres. Donc c'est vraiment ça que ça représente, c'est vraiment l'image même que Léopold II voulait donner de la Belgique.
Ça c'est un monument majeur, c'est un peu l'arc de triomphe pour les Parisiens.
Ça c'est l'arc de triomphe des Parisiens, oui. Mais nous on a fait mieux parce qu'on a mis trois arcades.
Alors me voilà à Namur, devant une caserne. Ah, cercle royal namurois des anciens d'Afrique. Voilà, accueil. Oh. Entrée du musée africain, on va pas se tromper. Ah voilà. Oh, j'ai accueilli par un buste de Léopold II.
Bonjour monsieur.
Bonjour messieurs dames. Bonjour monsieur
enchanté.
Rousseau. Bonjour monsieur, bonjour madame.
Bonjour.
Daniel Mermet. Bon, ben nous y voilà, à ce musée, le cercle royal namurois des anciens d'Afrique. Une reçue chaleureusement, mais quand même avec un petit point de méfiance, avec quelque chose d'un petit peu farouche, par ces animateurs de ce musée qui sont des coloniaux, enfin des anciens des colonies, de la colonie, du Congo, et qui sont très attachés à cette époque révolue. Il faut rappeler une chose, c'est que dans sa conquête indirecte donc du Congo, Léopold II a une mission civilisatrice, lui aussi. Vous vous souvenez que nous avons conquis, nous autres, les Français, l'Afrique, du Nord, partout, avec une mission civilisatrice. Il s'agissait d'apporter la civilisation à ces indigènes. Eh bien, lui, c'était la même chose, sauf que lui, il entendait lutter contre la traite négrière faite par les Arabes. Et effectivement, il y a eu, vous le savez bien, une traite négrière atlantique, une traite négrière vers la Méditerranée, et oui, et puis vers l'océan Indien. Eh bien, c'est contre cette traite-là qu'il entendait agir et lutter. Il faut toujours que vous ayez, quand vous êtes un conquérant cupide, un bon alibi humanitaire.
C'est un bâtiment très ancien, c'est le corps de garde de la caserne du premier lancier, et ici... On commence par une salle historique de l'époque avant Léopold II, avec des objets qui concernent la campagne esclavagiste.
Ah, vous avez des fusils arabes,
oui.
À silex et à piston.
Oui. Et alors, cette campagne anti-esclavagiste a été initiée par le cardinal Lavigerie, dont vous voyez une photo là-bas.
Oh.
Et Léopold II, qui s'occupait de l'État indépendant du Congo à cette époque-là, parce que ça s'appelait l'État indépendant
du Congo, oui.
S'est rallié aux idées de Lavigerie et a envoyé des pionniers pour combattre les esclavagistes. En 85,
c'est ça, après la conférence de Berlin,
qui décide d'octroyer à Léopold II un territoire qui s'appelle l'État indépendant du Congo, dont les frontières sont définies à un certain endroit, mais dans la partie est, les frontières ne sont pas complètement définies.
Et alors c'est sa propriété privée.
C'est sa propriété privée, c'est effectivement.
Ça, c'est ça. Oui, oui.
Et le premier souci...
Il ira jamais.
Mais ça n'a pas d'importance.
Non, non, mais je vous pose la question.
Vous avez un timesharing à Mégève, vous n'y allez pas. Hein. Vous pouvez très bien investir là-dedans, dans une œuvre qui était une œuvre de développement. Mm-hmm. Et alors, le premier souci, c'était la campagne anti-esclavagiste.
Donc, le souci de Léopold, c'était la lutte contre l'esclavage arabe.
Premièrement.
Ça, c'était ça.
Et le deuxième souci, c'était le développement du pays.
Mm-hmm.
Et il a engagé un explorateur qui avait fait déjà deux grandes expéditions à travers le Congo, qui s'appelait Stanley.
Mm-hmm. Ah, que
vous,
voilà.
Vous avez ici, ça Stanley. C'est le buste de Stanley.
Ah, d'accord. Mais il a été très discuté, Stanley, quand même. Hein.
À quel point
il y a eu des critiques sur Stanley. Hein. Non,
ah bon
non, pas pour vous.
Jamais entendu.
Ah bon? Ah, d'accord. Non, il n'y a pas de polémique pour vous, sur ses méthodes.
Mais non,
sur
quel genre de polémique et quel genre de méthode?
Moi, je suis allé au musée de Tervuren.
Oui.
Il y a un emplacement à peu près comme ça où Stanley est mis en cause, par exemple. Mais pour vous, Stanley, au contraire, c'est même un héros un peu.
Passionnant musée de Tervuren. En sortant de Bruxelles, aller y faire un tour. Vous avez là l'histoire de la colonisation et l'histoire de la critique de la colonisation dans un seul et même lieu. C'est passionnant parce qu'on voit le début du musée, c'est l'éloge de cette mission civilisatrice, la façon dont on considérait ces indigènes comme une sous-espèce, le terme en allemand c'est Untermensch, ça correspond je crois assez bien, et puis comment peu à peu la conscience vient et comment ces derniers temps, mais des temps récents, on remet en cause la colonisation, le principe, le système et les valeurs qui accompagnaient cette prédation et cet impérialisme pur. Mais attendez, moi je comprends pas très bien. Toutes les histoires de cette séquence, hein, 1885-1908, l'État indépendant du Congo, moi j'ai lu beaucoup de choses qui racontent des horreurs épouvantables pendant cette
bien
époque-là.
Sûr, bien sûr.
Avec des histoires de mains coupées,
mais
etc.
Oui,
il y a énormément de témoignages, de choses qui s'accumulent de toutes sortes. Alors, quelle est votre version? Qu'est-ce que vous dites contre ça?
Je vous dirais d'abord, vous ne lisez que ce que vous voulez lire. Les mains coupées ont existé avant la colonie, avant l'État indépendant du Congo, et ont existé durant la période arabe. Avant Léopold, avant les Arabes, les chefs tribaux utilisaient la mutilation corporelle pour s'imposer. Un chef comme Siri, que tu as connu au Katanga, il coupait les mains.
Mm-hmm. Et les têtes aussi.
Il coupait les têtes.
Ah, vous avez connu un gars comme ça, vous?
Je n'ai pas connu Siri, parce que Siri n'est pas un de nos contemporains. J'ai connu sa descendance, oui.
Donc, pour vous, toutes ces horreurs n'ont pas existé?
Non.
On n'a pas dit ça.
Auparavant, c'était avant.
C'est vous... Mais non, c'est...
Donc je vous pose des questions, moi.
Oui, mais il faut poser la question dans le bon sens.
Ah, d'accord. Dites-moi comment on pose des questions, alors.
Bon sens.
Dites-moi comment on pose des questions.
Mais non, parce que vous dites que tous les livres que vous avez vus, on ne parle que de mains coupées. Donc, je vous ai dit simplement ceci. Vous lisez les livres que vous voulez bien lire. Mmh. Bon, les mains coupées ont existé du temps des Arabes et que les roitelets, chefs de tribu, utilisaient les mutilations corporelles pour s'imposer.
Mmh. Donc, toutes ces images de mains coupées, tous ces témoignages et tous ces livres sur ce sujet, pour vous, n'ont pas de valeur.
Il faut savoir les analyser. Alors, moi, je peux vous montrer des photos de mains coupées, qui en réalité sont des photos qui ont été prises sur des lépreux qui ont perdu leurs mains. Bon. Il y a des photos de mains coupées où il y a des mains, la personne est en moignon pour la bonne raison qu'il a été mordu par un phacochère.
Ah.
Bon. Il y a d'autres photos où la personne a été emprisonnée et ses liens étaient tellement serrés qu'il a eu la gangrène et on lui a coupé les mains pour le soigner. Tout ça existe. Mm-hmm. Quant à dire que les mains coupées n'ont pas existé, je ne dirai jamais cela. Les mains coupées ont existé, mais c'est une coutume ancienne.
C'est une coutume ancienne et on ne peut pas attribuer ces atrocités à la présence belge au Congo.
Jamais.
C'est ça. C'est ça. Donc il n'y a pas eu d'atrocité commise dans cette époque-là, selon vous.
Non.
D'aucune nature. Au contraire, pour vous, il s'agissait d'une mission civilisatrice, d'une lutte contre l'esclavage arabe, c'est bien ça, et d'une mise en valeur des ressources et du territoire. Mm-hmm. C'est ça votre... Affirmatif. C'est-à-dire que vous défendez courageusement la colonisation, même si ça ne s'appelait pas encore colonie, du Congo.
Oui, affirmatif.
Très bien. Ouais. On est en 2010 et vous restez sur cette idée, vous défendez
ça, c'est la vérité.
Petit à petit, un nouveau type de Congolais se crée. Celui qui ne s'étonne plus de voir l'hélicoptère survoler sa hutte pour y déverser ce BDP bienfaisant. Celui qui, délaissant sa hutte, qui ne manquait certes pas de poésie ni même de fraîcheur, s'installe dans ces cités nouvelles où le confort n'est peut-être pas encore parfait, mais qui marque une nette amélioration par rapport à la condition dans laquelle il se trouvait auparavant. Le Congolais sportif a également fait son apparition. Certes, il connaissait déjà la natation, mais pas en bassin comme il peut la pratiquer actuellement. Mais ce qu'il ne connaissait pas, et pour lequel il a appris à se passionner tout comme nous, c'est le cyclisme et surtout le football. Si comme tout homme, le Congolais a ses défauts, il a aussi ses qualités. Turbulent, il sait aussi être discipliné. C'est à la Belgique qu'il appartient d'harmoniser en une heureuse communauté le patrimoine qu'Européens et Africains apportent à l'édification de ce nouveau Congo.
Propagande tardive des années 50, quelques années avant l'indépendance de 1960. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le début de l'histoire. C'est le roi Léopold, c'est ce Congo de l'ivoire, puis du caoutchouc. Bien évidemment que là-dedans, il y avait des souscripteurs. Il y avait des actionnaires, il y avait des banques, il y avait ce qu'on appelle le capitalisme qui accompagnait cette histoire. Il ne s'agit pas de bavure quand on évoque les souffrances et les atrocités subies par les populations. Il s'agit d'un système entier.
Quand il a eu son projet de coloniser en Afrique centrale, il fallait avoir l'accord des grandes puissances coloniales. Parce que la France était en direction du Congo, Brazzaville, Brazza.
Voilà, on était juste de l'autre côté du fleuve.
Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fondé l'Association internationale africaine. Et l'Association internationale africaine, c'était un groupe de lobbying qui a fait donc qu'à la conférence de Berlin, on a donné le feu vert pour coloniser. Donc c'était en 1876, l'Association internationale africaine. Et puis quand ça a démarré, deux ans plus tard, ils ont changé de nom, c'est devenu le comité d'études du Haut-Congo. Et là aussi, les gens qui étaient là-dedans ont changé un petit peu. Parce qu'avant, c'était surtout des diplomates et tout ça. Maintenant, les banquiers sont entrés là-dedans. Entre autres, le baron Lambert, son premier financier, oui. Le chemin de fer d'un certain Tiss. Il existait un Tissville au Congo. Donc c'est le même Tiss et qui est devenu un grand banquier après et un grand entrepreneur grâce à ce qu'il a fait au Congo. Mais aussi une figure très connue chez les Bruxellois, le banquier Bruckmann. Parce que maintenant à Bruxelles, il y a une avenue Bruckmann, un parc Bruckmann et il y a eu un hôpital Bruckmann.
Et tout ça, c'est des fortunes qui sont faites avec le Congo.
Oui, donc ce sont des gens qui ont financé le début de la colonisation. Et donc ça s'est trouvé ici dans la première période, parce que quand la Belgique a repris, ils se sont déplacés un tout petit peu. le parc qui est devant le palais, le parc de Bruxelles, est devenu le nouveau centre. Et là, c'était la Société Générale, l'Union Minière du Haut-Katanga qui est devenue les Gécamines, la Forminière pour les diamants, le baron en pain était là, Lord Lever du Unilever, mais qui a commencé avec les huileries du Congo.
Unilever qui est aujourd'hui une des plus grandes multinationales au monde.
Et, mais donc qui a aussi investi. Il y avait même un Leverville aussi au Congo.
Ah bon ?
Oui, parce que sur base de l'huile de palme, ils faisaient du savon et il y avait le Sunlight. En Belgique, c'était le savon parce qu'en fait, il venait du Congo. Il avait un nom anglais parce que ce Lord Lever, il avait commencé dans un petit port anglais qui s'appelle Sunlight. Mais en fait, sa fortune a commencé à grandir parce qu'il s'est mis avec l'État belge à exploiter toute l'huile du Congo, l'huile végétale.
La croissance, vous voulez dire que la croissance d'Unilever, qui est aujourd'hui présente dans, je ne sais pas combien, 150 pays au monde, commence avec le Congo belge.
Ça commence en Angleterre, mais ça s'est amplifié grâce au grand territoire qu'il a eu. Comme je dis, il a même une ville qui porte son nom, et par exemple aussi le baron en pain, donc celui qui a fait le métro de Paris et le métro de Caire, et il a fait des chemins de fer à l'est du Congo, et en compensation, on lui donnait des terrains plusieurs fois plus grand que la Belgique, où il pouvait récolter aussi, pas seulement son investissement des chemins de fer, mais l'huile de palme, n'importe ce qu'il poussait là. Et en fait, il a fait les mêmes effets que Léopold II. Par exemple, pour l'huile, ça se trouvait dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup de gens. Donc il déplaçait des populations entières contre leur gré pour qu'ils travaillent sur ces plantations. C'était aussi une forme d'esclavagisme moderne.
Pourquoi et comment nous devons coloniser ? Bruxelles, 1933. Les missionnaires sont les mieux à même de toucher, par leur enseignement religieux et profane, la personnalité intime de l'indigène, de transformer sa mentalité, de le rallier dans son fort intérieur à l'ordre social nouveau. Recueil à l'usage des fonctionnaires et des agents du service territorial au Congo belge. Vous avez fait un bond formidable sur le chemin de la civilisation. Former cette aristocratie de la société indigène, constituer ses élites. La masse est demeurée inerte et amorphe. Si l'élite noire doit être consciente de sa supériorité à l'égard des indigènes semi-sauvages, elle doit tout aussi clairement connaître ses devoirs envers le pouvoir absolu. Il convient de constater que la plupart des Européens sont animés à votre égard d'une bonne volonté évidente et que tous participent par leur travail à l'œuvre commune qui est de vous civiliser. Ayez alors un peu de reconnaissance envers cette nation qui vous a déjà tant donné. J.M. Daumont, L'élite noire, Bruxelles, 1953. Comment obtenir la collaboration d'une population indolente qui trouve aisément, dans son propre milieu, à satisfaire à ses modestes besoins en matière d'alimentation, de logement et d'habillement ? Ceci résume presque tout le problème colonial. Recueil à l'usage des fonctionnaires et des agents du service territorial au Congo belge.
Alors Lucas, Catherine, si on voulait faire un rapide tour d'horizon de la période pendant laquelle Léopold II a été le seul maître après Dieu sur le Congo.
Mais c'était pas vraiment la colonisation, c'était le vol organisé, le plus vite possible, parce qu'il ne pensait qu'à une chose, à Bruxelles et à la Belgique, pour utiliser cet argent pour la grandeur de la Belgique, le petit pays que lui, il voulait beaucoup plus grand, comme il a dit. C'est pour ça qu'il voulut la colonie. Donc, sur ce point-là, c'est assez différent du moment que la Belgique a repris, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, où c'était une colonisation normale, si on peut parler de normale pour une colonisation, mais une colonisation comme les autres. Tandis que c'était le pillage. Il y avait un minimum d'investissement, parce que c'était nécessaire le transport pour que ça sorte du Congo, mais pour rien. Après nous, le déluge. Et avec tous les moyens qu'on pouvait mettre, aussi les moyens les plus cruels, comme couper les mains, déporter des populations entières d'une région à une autre, il n'y avait aucune limite. Ici, il avait le contrôle du Parlement. Là-bas, il n'y avait pas de contrôle. Il n'y avait que Léopold. Il était tout. Et pas seulement maître après Dieu, mais en même temps Dieu, parce que c'est lui qui décidait quel missionnaire pouvait aller là et qui pouvait amener quel Dieu là-bas. Et donc, c'était les catholiques, pas les protestants, par exemple.
Et est-ce que la société belge de l'époque avait un regard, avait un œil sur ce qui se passait si loin au Congo ? Parce qu'on voyait bien les richesses qui arrivaient, on voyait bien les changements qui étaient apportés ici. Mais est-ce qu'on avait la préoccupation, le souci ou même la moindre idée de ce qui se passait là-bas ?
À la période Léopold II, non. Les élites, oui, parce qu'il y a eu très vite des critiques des élites. Hein. Par exemple, le premier livre très documenté contre le régime léopoldien a écrit par un professeur de l'Université de Bruxelles, Cattier, en 1906. C'est aussi le leader socialiste Van der Velde qui a critiqué beaucoup Léopold II. Par exemple, les grands arcades qui sont au cinquantenaire, il a dit au Parlement, ils ont été construits avec des mains coupées. Mais en même temps, c'était une critique contre ce système léopoldien, pas contre le colonialisme. Par exemple, Van der Velde, il avait même élaboré une théorie d'une colonisation socialiste. Et donc,
Le colonialisme à visage humain.
Oui, c'est ça. L'idée coloniale était assez propagée. Mais chez les gens, je ne sais pas, par exemple, je sais que dans le mouvement ouvrier, parce que Léopold II était aussi très asocial, je veux dire, il se méfiait de toutes sortes de révolutions. C'est parce que son grand-père, Louis-Philippe, a été chassé par une révolution en France. Et donc, en fait, il avait sa fortune au Luxembourg, déjà comme bon belge.
Déjà ?
Oui, oui, non, c'est ça. Et il avait...
Finalement, le monde ne change pas tellement, en fait, on a envie de dire.
Et notre monarchie non plus. Et donc, il avait un bateau en permanence à Ostende pour fuir vers l'Angleterre chez sa cousine. Et je sais que dans le mouvement ouvrier... Il y a une chanson de grève qui existe. Je la connais seulement en néerlandais parce que ça a été fait à Gand, qui était un centre d'industrie textile avec un mouvement ouvrier très fort. Et cette chanson, elle dit « Belgeland is slechter dan de Congo ». En Belgique, c'est encore pire qu'au Congo. Donc on ne l'aimait pas parce que tous les bienfaits, tout l'argent du Congo... Ça n'entrait pas chez les gens, ça entrait chez les riches, dans les compagnies industrielles, minières, financières, et dans l'urbanisation, mais...
Mais pas dans les assiettes.
Mais pas dans les assiettes, oui, c'est ça. Le petit peuple n'avait rien à voir avec ça. Hein. C'est surtout la haute finance et l'industrie belge qui en a profité. Wallon ou flamand, il n'y a pas de différence là.
De tous ces édifices, le plus surprenant est le palais de justice.
France 3.
Un monument phare visible de partout dans la ville.
9 novembre 2005.
Et là, c'est le palais de justice, oui, vu de l'intérieur.
Oui, impressionnant, hein. Un monstre. On l'appelle le mammouth.
Pourquoi?
Quand on voit l'extérieur, on comprend. Hein. C'est un palais qui surmonte la ville. On dit toujours que c'est le plus grand qui existe au monde.
Et Léopold II va donner dans la démesure. Une surface de 26 000 m², une coupole haute de 50 mètres, une architecture écrasante. Le roi voulait marquer les esprits, ça va marcher.
Et là, ça nous renvoie à Léopold II, qui est présenté toujours aujourd'hui comme le grand bâtisseur, le grand constructeur, le roi éclairé, alors que le bouquin d'Oxfield et d'autres livres, et d'autres travaux, assez récents, hein, montrent qu'il y a toute une face noire.
Oui, absolument. Et, on peut dire qu'en quelque sorte, Léopold II est le père de la nation congolaise. Il a fondé le Congo, c'est vrai. Ça, c'est juste, mais à un prix terrible.
On est avec Ludo de Witte à nouveau. Il y a beaucoup de livres. Je viens de citer Adam Hochschild, mais il y a aussi le livre formidable de Daniel Van Grunweg, Du sang sur les lianes, et beaucoup d'autres ouvrages sur cette période très, très sombre de l'histoire de nos voisins belges, mais aussi, évidemment, et avant tout, l'histoire du Congo, République démocratique du Congo, aujourd'hui. Ludo de Witte.
Quand on prend les analyses des anthropologues et des démographes sérieux, eux ont tiré la conclusion qu'à l'époque léopoldienne, donc dans l'espace d'une vingtaine d'années, jusqu'à 2/3 de la population a été effacée suite aux conséquences de l'introduction du système léopoldien. Donc suite à des actes de répression, la famine, aussi l'introduction des maladies et tout. Donc ça c'était une affaire involontaire. Mais donc les conséquences objectives de l'introduction du système colonial léopoldien a provoqué la mort de millions de Congolais.
À qui ont profité ces crimes? Le crime colonial que vous venez de décrire, la mort de Mobutu, tout ça c'est la même histoire. À qui ça a profité? À qui ça profite aujourd'hui?
Ben, ça a profité, disons, au grand capital belge, hein, donc la Société Générale qui contrôlait 2/3 de l'économie belge est devenue grand avec les entreprises coloniaux à l'époque. Et donc aujourd'hui, la Société Générale est essentiellement reprise dans les mains des capitaux français. Donc dans un certain sens, c'est pas seulement la Belgique, mais c'est aussi la France qui profite encore aujourd'hui des crimes commis sous l'époque coloniale à l'époque.
C'est-à-dire que le développement de la Belgique est complètement lié à l'exploitation du Congo.
Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que Léopold II a établi cette colonie contre la volonté de la bourgeoisie belge. La bourgeoisie belge était contre, parce que c'était une bourgeoisie jeune, un État jeune, très fragmenté, et on avait peur des grands voisins, la France et l'Allemagne. On avait peur de les irriter en essayant d'acquérir une colonie en Afrique. Donc finalement, et ça c'était un acte génial de la part du Léopold II, il a pu, par ses propres forces et par sa propre volonté, construire cette colonie. Mais pour impliquer la bourgeoisie belge dans l'entreprise coloniale, il leur a dû donner beaucoup. Et il leur a donné des terrains et des possibilités d'exploitation immenses au Congo. Et c'est comme ça que, en fait, quelques grands trusts belges ont eu l'accès au Congo des terrains et des possibilités d'exploitation immenses. Et effectivement, ils l'ont utilisé jusqu'à l'époque mobutiste, quoi. Donc, c'est effectivement comme ça que la grandeur des trusts belges a dépendu beaucoup des activités au Congo.
Merci Ludo De Wit, c'était un reportage avec Guy Van Til. Merci à Lucas Catherine, au collectif Mémoire Coloniale, Jean-Paul Rousseau, Paul Vanès du Musée Africain de Namur. Merci. Vous merci aussi aux éditions ADEN, au CADTM. Vous trouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, avec la liste de livres, une bibliographie. Vous pouvez également retrouver toutes ces informations et réécouter l'émission sur là-bas.org, là-bas.org. Cédric Lalanne et Pascal Baldassari étaient à la technique aujourd'hui. Koye Nguyen et Franck Adhérère ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Le Bot. Et Marina Touillez attend vos messages sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37. Réclame.
Nous sommes au Futuroscope pour vous parler de l'attraction imaginée par Luc Besson. Arthur, l'aventure 4D, un vol à dos de coccinelle au pays des Minimoys.
Tu vas regarder un peu devant toi et appuie sur le champignon.
Un concentré technologique unique au monde pour vivre le grand frisson.
Oh, et c'est normal qu'on fonce droit sur une grosse toile d'araignée.
Maman.
Au Futuroscope, découvrez Arthur, l'aventure 4D, l'attraction préférée des visiteurs. Toute l'année, le séjour Parc plus Hôtel est à partir de 49,50€ par personne. Futuroscope. Offre soumise à condition, consultez futuroscope.com.
Avec la GMF,
Alex est serein. Il a choisi Autopass, l'assurance auto
de la GMF,
qui lui fait faire 10% d'économie quand il roule peu. Alors oui, Alex chante un peu faux, mais il est enfin serein.
Grâce à la GMF.
Il peut donc penser à autre chose qu'à son assurance auto. Ce qui est humain après tout.
GMF, assurément humain.
Et avant le 31 janvier, la GMF vous offre les deux premiers mois de votre assurance auto. Conditions au 0970-809-809 ou sur gmf.fr.
16h, 1 minute sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour là-bas. Si j'y suis, je vous laisse pour les infos avec Delphine Simon. Salut!
Un attentat suicide à Moscou, c'est le principal aéroport de la capitale russe qui a été visé cet après-midi par une explosion. Il y a de nombreuses victimes, le bilan ne cesse de grimper, au moins 30 morts, plusieurs dizaines de blessés. Ilana Moryousev nous appelle de Moscou.
Selon une source policière citée par une agence russe, il s'agit d'un attentat suicide. Le ou les terroristes se sont fait exploser dans la zone des arrivées internationales de l'aéroport Domodedovo, le plus moderne de Moscou. La radio Écho de Moscou a diffusé le témoignage de l'une de ses rédactrices en chef qui se trouvait à l'aéroport au moment de l'explosion. Elle a dit qu'il n'y avait pas de signe de panique pour le moment. Dans la zone de départ, les vols ont été retardés. Les hôpitaux de Moscou se préparent à accueillir les blessés. Une vingtaine d'ambulances sont arrivées sur place. place. Les autres aéroports de Moscou, Cheremetyevo et Vnukovo, ainsi que le métro, ont été placés sous haute surveillance. Moscou, Ilana Morioussef, France Inter.
En France, Nicolas Sarkozy amorce un début de mea culpa à propos de la Tunisie. Lors d'une rare conférence de presse à l'Élysée, le chef de l'État reconnaît que Paris a sous-estimé la désespérance du peuple tunisien, mais il justifie les hésitations de la France par un devoir de réserve auquel doit se tenir une ancienne puissance coloniale. Au cours de cette conférence de presse solennelle, Nicolas Sarkozy a également donné sa feuille de route pour le G20, dont la France prend les rênes cette année. Il a également assuré que les otages français en Afghanistan et au Sahel sont en vie. Le Conseil d'État d'accord pour renvoyer le dossier de Jean-Paul Huchon devant le Conseil constitutionnel. Le président de la région Île-de-France est menacé d'inéligibilité. Il est accusé de ne pas avoir porté sur ses déclarations de compte de campagne les frais de promotion des transports régionaux 6 mois avant son élection. L'impôt sur la fortune a rapporté plus que prévu en 2010, 360 millions d'euros de plus, selon une estimation de Bercy. Les cours du cacao sont au plus haut. Ce matin, le président élu de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a ordonné l'arrêt des exportations de café et de cacao. Déçu par le peu d'empressement de la communauté internationale à faire respecter les sanctions économiques ou même à envisager une action militaire, Alassane Ouattara veut frapper au cœur de la richesse nationale pour contraindre Laurent Gbagbo au départ. Quant au Nigeria voisin, il demande aux Nations Unies d'autoriser l'usage de la force. Enfin, ça se confirme, 2010, annus horribilis en matière de catastrophes naturelles, inondations historiques au Pakistan, glissements de terrain en Chine et séismes en Haïti. Selon un rapport de l'ONU, 2010 aura été l'une des années les plus meurtrières depuis 2 décennies. Près de 300 000 morts et 200 millions de personnes sinistrées.
Demain, dans Service Public.
En partenariat avec l'UFC, Que choisir, une question. Que pensent vraiment les patients de leur médecin? On peut en débattre tous ensemble sur franceinter.com.
Service Public avec Isabelle Giordano, du lundi au vendredi à 10h. Une autre manière de vivre ensemble.
France Inter. France Inter.
La différence.
Il est 16h04 et vous avez rendez-vous avec Frédéric Lodéon.
Bonjour Delphine. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. L'exposition Claude Monet a connu un très grand succès au Grand Palais à Paris et les files d'attente étaient tout à fait inhabituelles, on peut dire même énormes. Dans le froid, la nuit, on a piétiné pour voir ses œuvres. Je veux dire que l'impressionnisme en peinture a ses points de repère et Claude Monet en est évidemment la base et le principal repère. Mais on a souvent aussi attribué cette appellation à certaines œuvres musicales, à une certaine époque, à certains compositeurs aussi, on leur a mis ce chapeau et là les choses sont moins claires parce que Claude Debussy, avec ses couleurs artistiques assez fondues, avec une écriture sans arrêt, parfois, mais pas toujours, on va s'en rendre compte, bien, il a aussi hérité de ce terme d'impressionniste qu'il n'aimait pas trop. Il se débattait pour qu'on ne lui attribue pas cette dénomination. Alors, on peut quand même constater que certaines œuvres sont des descriptions un peu vagues, admirablement senties dans l'atmosphère, dans l'impression, justement. Et par exemple, pour commencer, tiré de la petite suite de Claude Debussy, En bateau.
Thank you.
En bateau, tiré de la petite suite de Claude Debussy, orchestration d'Henri Busser, interprétée par l'Orchestre Symphonique de Détroit, dirigé par Paul Paré. Alors justement, à propos d'Henri Busser, qui est mort à 101 ans, je le cite souvent, comme un exemple, un auditeur, Hervé Soufflet, me signale aussi, me dit, mais alors quid, vous oubliez Paul Le Flem, qui est né en 1881 et est mort en 1984, donc ça fait 103 ou 102, je ne sais pas si les mois correspondent, mais en tout cas, quelque chose comme ça. Donc le gagnant, c'est vraiment Paul Le Flem. Je vous en rends grâce de l'avoir signalé, né à Lézardrieux dans les Côtes d'Armor et qui a été d'ailleurs l'élève de Bussy, entre autres. Et puis il a écrit quelques opéras, notamment liés à la Bretagne, c'est peut-être pour ça qu'on le connaît moins, parce qu'il a écrit des choses qui sont assez marquées par le terroir breton.